VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Et bienvenue à l'édition du jeudi 26 février 2015. À la une ce soir, nouvel attentat suicide dans le nord-est du Nigeria. Un kamikaze s'est fait exploser dans une gare routière de la localité de Biou, faisant au moins 18 morts.
Et c'est dans ce contexte que le candidat de l'opposition réaffirme sa confiance dans l'armée nigériane.
République démocratique du Congo, l'armée affirme avoir reconquis un groupe de villages contrôlés par les rebelles hutu-rwandais dans le sud Kivu.
Nous parlerons aussi d'une visite en Centrafrique de la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda.
Face aux derniers événements, la CPI a commencé à examiner, à ouvrir une procédure d'examen de la situation centrafricaine.
Antoinette Montaigne, porte-parole de la présidence à Bangui.
Et signe de vie pour le cessez-le-feu en Ukraine, l'armée gouvernementale commence le retrait de ses armes lourdes dans l'Est séparatiste.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, où nous parlerons de la qualification du Mali pour la finale de la CAN des cadets.
Mais d'abord, le journal.
Nouvel attentat suicide dans le nord-est du Nigeria. D'après l'AFP, un kamikaze s'est fait exploser dans une gare routière de la localité de Biou. Un second assaillant a été abattu avant qu'il n'actionne sa charge explosive. Un membre d'une milice d'autodéfense fait état d'au moins 18 morts, dont 3 femmes.
Et c'est dans ce contexte de violence que le président nigérian Goodluck Jonathan s'est rendu aujourd'hui à Baga. Cette ville de pêcheurs sur les rives du lac Tchad a été attaquée le 3 janvier par le groupe islamiste Boko Haram, qui avait alors massacré des centaines, voire des milliers d'habitants. Cette visite du président nigérian intervient à un mois des élections.
C'est la voix de Muhammadu Buhari, le candidat de l'opposition du Nigeria, qui exprime sa confiance en l'armée au cours d'une interview accordée à la Voix de l'Amérique. Il a insisté sur les victoires des forces nigérianes à l'étranger et parlé de conspiration pour expliquer les défaites de ces forces vis-à-vis des insurgés djihadistes.
L'armée congolaise affirme avoir reconquis un groupe de villages au FDLR dans le sud Kivu. Selon un officier joint par l'AFP, Moulengue et les villages environnants ont été vidés des rebelles hutu-rwandais. Il sera à présent retranché dans la forêt de Kitavu Kambejere.
La milice islamiste des Shebab en Somalie a revendiqué ce jeudi une attaque au mortier sur le palais présidentiel à Mogadiscio. Camille Grosdidier.
L'agence France-Presse signale au moins un mort, mais le bilan exact de l'attaque reste à confirmer, la police n'ayant confirmé aucun chiffre pour l'instant. Nous avons attaqué aujourd'hui le palais avec des obus de mortier. Plusieurs sont tombés à l'intérieur du palais, a déclaré à Reuters un porte-parole militaire des Shebab. La police a confirmé que plusieurs obus de mortier sont tombés non loin du palais présidentiel. Elle a ouvert une enquête qui se poursuit. Les Shebab ont été chassés de Mogadiscio par les troupes africaines de maintien de la paix en 2011, mais ils mènent depuis des attaques sporadiques dans la capitale pour tenter de renverser le gouvernement.
Des heurts ont été déclarés entre Guinéens et Maliens. On compte 14 blessés. Souleymane Keïta, préfet de la ville de Mandiana, dernière ville guinéenne qui fait frontière avec le Mali, explique les griefs. Modibo Dembélé l'adjoint. On l'écoute.
Réellement, il y a eu un affrontement entre les deux populations. C'est que il y a eu une partie litigieuse entre la Guinée et le Mali. Les Guinéens ont découvert de l'or sur leur territoire, les Maliens sont venus les aider. Mais entre-temps, les gendarmes maliens sont venus pour mettre un billet là-bas pour prendre l'argent de ces billets. C'est ce qui n'a pas plu aux gens, qui a créé des problèmes, on m'a informé. En tant que préfet, le sous-préfet m'a informé. Quand il m'a informé, moi, je l'ai dit de dire à la population guinéenne de quitter les lieux. Les gens sont restés sur les lieux. Les populations de Kanté du Brangui se sont énervées. Ils ont allé encore revoir le sous-préfet. Le sous-préfet m'a appelé, moi j'ai dit, bon, maintenant comme c'est une réticence, il faut le décrire. Il a écrit au sous-préfet de dire à la population de quitter les lieux, c'est devenu un lieu litigé, pour éviter les affrontements. Le sous-préfet n'a pas répondu à pareil maîtrise, mais il a appelé mon sous-préfet pour lui dire que lui, il est fatigué, il ne peut plus dire à ces gens de quitter. Donc, eux, ils sont en train de prendre de l'ordre là-bas devant les.
Et côté malien, est-ce que vous avez connaissance des victimes?
Non, du côté malien, je ne connais pas.
Et à la date d'aujourd'hui, est-ce que les autorités, les hautes autorités guinéennes ont saisi officiellement les autorités maliennes en dehors, par exemple, du sous-préfet et du préfet?
Oui, bon, j'ai donné des informations à mon gouverneur qui a informé aussi que c'est la grille. J'ai donné des informations qui sont en train de prendre des dispositions entre État et État.
Voilà, c'était Souleymane Keïta, préfet de la ville de Mandiana, où se sont produits ces heurts entre Guinéens et Maliens.
Et c'était hier. Les États-Unis ont mis un terme ce jeudi à leur opération militaire pour combattre l'épidémie d'Ebola au Libéria. Au cours d'une cérémonie à Monrovia, le général Gary Voleski, chef de l'opération, a fait référence aux progrès réalisés, à la diminution du nombre de cas confirmés ou suspects d'Ebola, et à la capacité des Libériens à reprendre une vie normale.
Nouveaux attentats en Égypte. Au moins une personne est morte dans une série d'explosions au Caire, selon le ministre égyptien de la Santé. On fait le point avec Jean-Roger Billon.
La première bombe a explosé devant une pizzeria, explique un communiqué du ministère de l'Intérieur. Trois autres ont visé des opérateurs de téléphonie mobile. Une dernière explosion a été ressentie dans le quartier pauvre d'Al-Warak. Selon le gouvernement du président Abdel Fattah al-Sissi, plus de 500 policiers et soldats ont été tués dans tout le pays par des attentats et attaques depuis juillet 2013. Ce n'est pas la première fois que l'Égypte est visée par des attentats, mais généralement, ils ont lieu contre les forces de sécurité dans le Sinaï. Les attaques les plus meurtrières sont revendiquées par la branche égyptienne du groupe État islamique Ansar Beit al-Maqdes. Au Caire, de nombreux attentats contre la police ont été revendiqués par le groupe djihadiste Ajnad Masser.
L'OTAN est particulièrement préoccupée par la terrible situation en Libye. L'organisation du traité Atlantique Nord se dit prête à soutenir ce pays plongé dans le chaos.
Au Soudan du Sud, l'exploitation pétrolière dans l'état d'unité a contaminé les nappes phréatiques bordant le Nil Blanc. D'après l'ONG allemande Sign of Hope, citée par l'AFP, l'eau bue par plus de 180 000 personnes est donc inconsommable.
Paul Kagame à Paris, le président rwandais prendra part demain à une réunion de l'UNESCO. En revanche, il ne rencontrera aucun responsable politique en France. Il faut dire que la tension reste vive entre la France et le président rwandais qui accuse Paris de complicité dans le génocide de 1994.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Début du retrait des armes lourdes ukrainiennes de la ligne de front dans l'Est séparatiste pro-russe, conformément aux accords signés le 12 février à Minsk. Et c'est ce qu'a annoncé Kiev dans un communiqué de l'état-major de son armée. Les précisions d'Eddie Isango.
Pour l'Ukraine, il s'agit sûrement d'un premier pas vers les retraits des armes lourdes qui va se faire sous la surveillance de l'OSCE, l'Organisation pour la coopération et la sécurité en Europe. L'armée ukrainienne avertit cependant qu'elle est prête à revoir les calendriers du retrait en cas de tentatives d'assaut de la part des rebelles pro-russes, rapporte l'AFP. Les cessez-le-feu instaurés à partir du 15 février semblent enfin tenir ces derniers jours dans l'Est séparatiste de l'Ukraine, où le conflit a fait plus de 5 800 morts en 10 mois.
Le nombre de chrétiens assyriens enlevés par le groupe État islamique dans le nord-est de la Syrie a atteint au moins 220. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les djihadistes ont capturé d'autres otages durant leur occupation de 10 villages ces trois derniers jours dans la province d'Asaké. Le département d'État américain a appelé plus tôt cette semaine à la libération immédiate de tous les otages. L'État islamique a pris pour cible les minorités religieuses, alors que le groupe terroriste s'accaparait de territoires en Syrie et dans le nord de l'Irak.
Sachez aussi que la coalition internationale a mené des frappes aujourd'hui contre des positions des djihadistes dans le nord-est de la Syrie, où ces derniers ont enlevé les chrétiens assyriens, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'ONG basée à Londres, mais disposant d'un réseau d'informateurs sur le terrain, n'a pas indiqué de bilan. Selon l'AFP, qui cite l'OSDH, au moins 35 combattants de l'État islamique et 25 membres des forces kurdes et assyriennes ont été tués dans les combats de ces trois derniers jours.
L'identité de ce militant de l'État islamique, vu sur plusieurs vidéos en train d'exécuter les otages du groupe, semble ne plus être un mystère. Deux sources gouvernementales américaines ont dit aux enquêteurs de l'agence de nouvelles Reuters que cet homme masqué n'est autre que Mohamed Emwazi, de nationalité britannique. Cependant, des officiels du renseignement en Europe refusent de confirmer son identité, disant que c'est plus compliqué que cela. Le djihadiste en question est de haute taille et parle avec un accent londonien, c'est tout ce que l'on sait.
Quatre parlementaires français ont défié la position officielle de la France, se rendant à Damas pour s'entretenir avec les officiels syriens, dont le président Bachar al-Assad. Aujourd'hui, les principaux dirigeants français, de droite comme de gauche, ont exprimé leur désaveu, malgré le souhait de certains de voir un rapprochement entre Paris et Damas, afin de mieux combattre les djihadistes de l'État islamique. Que des parlementaires aient ainsi, sans crier gare, rencontré un boucher, je crois que c'est une faute morale, a déclaré le Premier ministre français Manuel Valls, cité par l'AFP.
Le père de la Française Isabelle Prime, enlevée mardi au Yémen, appelle ses agresseurs à faire preuve d'humanité et à la libérer, ainsi que la jeune femme yéménite enlevée en même temps qu'elle. C'est ce que rapporte l'AFP, qui fait référence à un communiqué de Jean-Noël Prime publié ce jeudi. Nous abordons cette épreuve avec confiance et nous nous tenons aux côtés des autorités françaises, a déclaré Jean-Noël Prime, toujours selon l'AFP.
Et la consommation de cannabis est désormais légale ici à Washington. En revanche, il est toujours interdit d'en acheter, d'en vendre et d'en fumer en public. Félix Epassi-Zambrou nous en dit plus.
Cette nouvelle loi est entrée en vigueur aujourd'hui, peu après minuit, heure locale. Elle avait été votée en novembre dernier par les électeurs de la capitale lors d'un référendum. Concrètement, ce texte permet aux adultes d'au moins 21 ans de posséder de la marijuana. Il est également légal d'en fumer 200 grammes et d'en faire pousser de petites quantités. La capitale des États-Unis emboîte ainsi le pas à l'Alaska, au Colorado et à l'État de Washington qui ont eux aussi légalisé l'usage récréatif du cannabis. Mais la capitale n'étant pas indépendante, les législateurs peuvent s'opposer à cette loi et prendre des mesures punitives contre la ville, car l'autorité du Congrès prévaut sur les décisions prises à l'échelle de la ville.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco ce soir avec Jean-Roger Bion.
La production de pétrole a contaminé des nappes phréatiques au Soudan du Sud. Le constat ressort d'une étude publiée ce jeudi à Juba par l'ONG allemande Sign of Hope. La zone concernée se situe dans la partie marécageuse du Nil Blanc, rendant inconsommable l'eau bue par plus de 180 000 personnes. L'ONG Signe d'espoir a effectué, d'après l'AFP, des prélèvements et mené des recherches depuis 6 ans en coopération avec l'entreprise African Water, installée en Allemagne et au Soudan du Sud et spécialisée dans la recherche de la fourniture d'eau potable dans ce pays. Le ministre des Finances de l'Afrique du Sud a annoncé une hausse des impôts pour l'année prochaine, un geste qui a encore agacé les Sud-Africains qui disent souffrir déjà d'une charge fiscale élevée. Le ministre sud-africain des Finances a reconnu qu'il y a peu de bonnes nouvelles dans le budget national de cette année 2015, qu'il avait déjà qualifié lui-même d'année de rigueur. Et pour finir, le Gabon chute dans sa notation par l'agence américaine Standard & Poor's. S&P a annoncé dans un communiqué cité par l'agence de presse APA avoir révisé à la baisse la note de crédit souverain à long terme du Gabon en devises étrangères et en monnaie locale, un réajustement à la baisse qui est lié à la dépréciation des cours du pétrole dont l'économie gabonaise est dépendante à plus de 80%.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger.
Les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Ken des moins de 17 ans au Niger, la deuxième demi-finale a pris fin.
Oui, dans le duel de l'Afrique de l'Ouest, les Aiglons maliens ont remporté le match contre le Sili National de Guinée 2-1. Seydou Koïta avait ouvert le score pour les Maliens en première mi-temps. À la reprise, Aboubakar Touré avait égalisé, mais dans la foulée, Ali Malé redonne l'avantage aux Aiglons. Le Mali affrontera donc en finale l'Afrique du Sud. Je vous rappelle que les Sud-Africains l'avaient emporté 1-0 contre le Nigeria.
En Europe, suite des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Bel exploit hier soir de Monaco qui l'a emporté 3-1 sur la pelouse d'Arsenal. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Bayer Leverkusen s'impose 1-0 devant l'Atlético Madrid.
On jouera ce jeudi en Ligue Europa.
16e de finale retour, les clubs reversés de Ligue des Champions n'ont pas la vie facile. L'Aroma de Gervinho voudra éviter l'accident industriel face au Feyenoord Rotterdam, un partout à l'aller. Liverpool devra conserver son mince avantage 1-0 sur la pelouse du Beşiktaş Istanbul. Tottenham est également dans une position inconfortable après son match nul à Londres face à la Fiorentina 1-0. Le tirage au sort des 8e de finale aura lieu demain vendredi à Nyon au siège de l'UEFA.
tennis, tournoi de Dubaï.
Le Tchèque Tomáš Berdych s'est qualifié pour les demi-finales en battant l'Ukrainien Sergei Stakhovski 6-3, 4-6, 6-2. Le jeune Croate Borna Koric, 18 ans, a créé la surprise de l'année en éliminant Andy Murray, troisième joueur mondial. Koric, 84e au classement ATP, a battu l'Écossais en 2-7 expéditifs, 6-1, 6-3.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorsil et Morgane Diriec, en votre compagnie, place au dossier du jour.
La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Ben Souda, a effectué une visite de travail de 48 heures à Bangui, visite au cours de laquelle elle a rencontré les autorités de la transition. Antoinette Montaigne, ministre conseiller et porte-parole de la présidence de la République, fait le point au micro de Félix Yepassis Zembro.
Face aux derniers événements, la CPI a commencer à examiner, à ouvrir une procédure d'examen de la situation centrafricaine face aux violations massives des droits de l'homme et a finalement ouvert une enquête en septembre 2014 sur la République centrafricaine parce que les éléments qui étaient examinés au préalable montraient qu'il y avait des risques importants pour les droits humains. Et donc, c'est suite à cela et surtout à la visite du chef de l'État de la transition début décembre à New York, à l'Assemblée générale des partis pays signataires du statut de Rome, que le chef de l'État a mis en avant un peu plus la coopération entre la République centrafricaine de manière plus officielle avec le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Donc, Mme Ben Souda est venue à Bangui pour approfondir cette discussion et continuer les investigations sur la situation de la République centrafricaine face aux droits de l'homme.
Oui, elle a été reçue par la présidente de la transition. De quoi a-t-elle parlé avec la présidente?
Comme vous le savez, la présidente de la transition a accepté, il y a un mois aujourd'hui, le transfert de Dominique Ongwen de la LRA à la CPI. Donc, c'était un acte fort de collaboration claire et franche avec la Cour pénale internationale. Même si ce qui s'est passé ne concernait pas la République centrafricaine, c'était des infractions qu'on reprochait à la LRA sur d'autres pays voisins. Mais le fait que ce personnage se trouvait sur le territoire centrafricain a justifié que la République centrafricaine et le chef de l'État de la transition a donné son accord pour une collaboration franche avec la Cour pénale internationale dans sa mission de lutter contre les violations des droits humains. Sinon, la procureure est venue ici pour remercier et encourager les autorités de la transition. Parce qu'elle a fait une déclaration hier en disant qu'elle était convaincue que le relèvement de la République centrafricaine ne pourra se faire sans des stratégies basées sur le droit et notamment la justice. Donc, c'est un souhait important dont tout le monde est convaincu ici, à commencer par le chef de l'État de la transition, qui, dans son adresse du 22 octobre au CNT, avait clairement indiqué qu'elle soutenait la fin de l'impunité en République centrafricaine. Donc, c'est un processus très encourageant que la procureure de la Cour pénale internationale a tenu à venir saluer, et en disant également qu'elle était prête à soutenir la mise en place de la Cour pénale spéciale en République centrafricaine qui va juger de manière complémentaire à la CPI. Comme vous le savez, tous les auteurs de crimes en Centrafrique n'iront pas à la CPI, d'autres seront jugés par la Cour pénale spéciale en République centrafricaine.
Voilà, Antoinette Montaigne, porte-parole de la présidence en RCA, a signalé que Fatou Ben Souda devait se rendre aujourd'hui en Ouganda.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Au Togo, sans surprise, le congrès du parti au pouvoir a désigné Faure Gnassingbé comme son candidat à la prochaine présidentielle. Dans les rangs de l'opposition, cette candidature de Faure Gnassingbé est diversement appréciée. Reportage à Lomé de notre correspondante Kayi Lawson.
L'Union pour la République Unie a investi le président sortant Faure Gnassingbé comme son candidat à la présidentielle du 15 avril prochain. C'est à l'issue d'un congrès qui s'est tenu ce 25 février à Accra, à 420 km au nord de Lomé. Suite à sa désignation, Faure Gnassingbé s'est adressé à ses militants.
J'ai l'honneur d'accepter d'être investi comme candidat à la prochaine élection présidentielle. J'accepte cette investiture pleinement. Je dis oui, car je suis convaincu qu'ensemble, nous saurons nous montrer à la hauteur de la confiance que les Togolais placent en nous. J'accepte cette investiture avec la ferme détermination de parachever la marche de notre pays vers le développement, le progrès et la prospérité.
À travers cette investiture, Fornia Singbe va concourir pour sa propre succession à la tête du Togo. Au Cap 2015, entendez, combat pour l'alternance politique en 2015, on estime qu'une candidature de Fornia Singbe pour un troisième mandat dénote d'une carence de démocratie. Brigitte Kafua Djamagbo-Johnson, présidente de CAP 2015.
L'investiture de M. Fornia Singbe nous confirme d'abord qu'il a du mal à jouer le jeu de la démocratie et que c'est exprès que M. Fornia Singbe continue de refuser de faire les réformes. Il n'a pas voulu faire les réformes, mais moi je suis convaincue que le peuple togolais saura lui dire « ça suffit ».
Pour le président du nouvel engagement togolais net, candidat à la présidentielle, l'investiture de Fornia Singbe est un non-événement. Seule la transparence des élections doit être la priorité afin que la vérité des urnes soit au rendez-vous au lendemain du 15 avril. Diary Tama, candidat à l'élection présidentielle.
Si la contrepartie de cette candidature, c'est qu'on puisse avoir une élection transparente qui permette au peuple togolais de faire son choix, nous, ça ne nous paraissait pas extraordinaire. Donc, que UNIR fasse son congrès, désigne son candidat, nous ne prenons que acte. Et nous espérons tout simplement que ce que nous avons revendiqué depuis le début, que nous puissions d'abord compétir dans la transparence, dans la justice et l'équité, et régulièrement avec le comité de suivi, nous essayons de nous assurer que tout le processus sera transparent. Mais donc nous resterons vigilants jusqu'à la fin du processus pour s'assurer que au moins le contrôle du processus électoral se fera.
Rappelons que c'est le 24 février que le gouvernement par décret a convoqué le corps électoral pour le 15 avril. La caution est fixée à 20 millions de francs CFA. Les candidats ont donc jusqu'au 28 février pour faire acte de candidature car c'est le délai accordé par la Commission électorale nationale indépendante. Kyle Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé et sur Radio Excelsior à Atakpané.
Parlons d'apatridie, une conférence sur ce thème organisée par la Côte d'Ivoire et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Abidjan. Manifestation qui s'est achevée hier. Seloua Jafari a joint Mohamed Touré, représentant du HCR en Côte d'Ivoire.
L'apatridie est un phénomène qui se retrouve un peu partout dans le monde. On estime aujourd'hui à plus de 10 millions de personnes qui sont apatrides dans le monde. Chaque 10 minutes, un enfant est apatride dans le monde. Mais l'apatridie est surtout très présente dans l'ancien empire soviétique. Donc à son éclatement, la succession d'États a entraîné des situations d'apatridie. Elle est aussi très présente dans des pays tels que le Myanmar, le Bangladesh, où l'apatridie est quand même réalisée. En Afrique de l'Ouest, elle est surtout la Côte d'Ivoire qui est l'exemple le plus frappant. Et à côté de cela, bien entendu, d'autres pays où on a des mouvements de populations nomadiques, les Hausa, les Fulani et les Touareg, dans des pays qui n'ont pas de politique de discrimination à l'endroit de groupes ethniques, mais qui effectivement, du fait d'avoir des populations qui ont des modes de vie pastoral et d'autres immenses, donc nous retrouvons aussi des situations d'apatridie.
Alors, parlez-nous un peu des efforts fournis par le HCR pour aider ces personnes-là et pour mettre fin à ce problème.
Donc, il va sans dire que l'HCR est aussi mandaté par l'Assemblée générale des Nations Unies pour avoir la possibilité d'aider les États qui en font la ratification. J'entends par là les conventions pertinentes contre l'apatridie, à savoir les conventions de 1954 et de 1961 pour la réduction de l'apatridie. Donc la HCR s'inscrit dans cette logique de vouloir donner une assistance à tous ces pays qui le souhaitent pour réduire l'apatridie. Donc je dis que les efforts du HCR donc s'inscrivent dans cette dynamique. Donc c'est s'inscrit aussi dans une dynamique qui est une dynamique de réduire ou de faire disparaître la patrie dans les 10 ans qui viennent. Donc la campagne que nous lançons depuis le mois d'octobre de cette année a pour but d'éradiquer la patrie dans les 10 ans. Donc c'est la raison pour laquelle la Côte d'Ivoire, qui est effectivement en avance par rapport à beaucoup de pays de la sous-région, parce que non seulement elle a ratifié les conventions pertinentes, à savoir celles de 1954 et de 1961, mais elle a aussi réussi à introduire dans son corpus juridique national des dispositions qui permettent de combattre l'apartheid. Donc à la demande du gouvernement ivoirien, le HCR est présent en Côte d'Ivoire pour aider à éradiquer l'apartheid dans les années qui viennent.
On écoutait Mohamed Touré, représentant du HCR en Côte d'Ivoire.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique. Tel est le thème de la 24e édition du FESPACO qui se tient du 28 février au 7 mars. Grâce au numérique, le cinéma africain a fait un bond quantitatif, mais sur la qualité, il y a encore du travail à faire, nous dit notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
La 24e édition du FESPACO, Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, ouvre ses portes du samedi 28 et ce jusqu'au 7 mars sous le thème « Cinéma africain, production et diffusion à l'ère du numérique ». Écoutons Clément Tapsoba, le coordonnateur, sur le choix de ce thème.
Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a eu un bond dans la production en termes de quantité. Si vous simplement prenez à ce FESPACO, nous avons reçu près de 700 et quelques films, comparé au FESPACO 2013 qui était à 600 et quelques. Si on compare il y a encore 10 ans, c'est encore plus. À cause justement du numérique, parce que des cinéastes peuvent produire plus, mais la production ne suppose pas justement une production de qualité. Il y a les avantages et les inconvénients. Tout le monde s'accapare le numérique, du moins des appareils qui permettent de tourner à moindre coût, parce que le numérique permet cela, mais cela n'induit pas forcément une qualité au niveau donc, des films. Et c'est cela un des éléments qui pose problème. Il nous est paru important en 2015 de nous arrêter pour justement examiner toutes les facettes liées à la production numérique, à l'exploitation du numérique dans les salles, à la diffusion numérique et même à l'aspect esthétique.
En ce FESPACO 2015, les films réalisés en support numérique sont acceptés à la compétition officielle. Toute chose pas facile, assure Patrice Diallo, le chef des infrastructures du FESPACO. Suivant.
Dans un premier temps, ça ne nous facilite pas du tout la tâche parce que là, nous entrons directement dans le numérique sans avoir une formation technique appropriée. Nous sommes obligés de faire appel à une compétence externe, mais il va falloir échanger à cela, faire une formation technique des opérateurs de projection et ensuite tous les techniciens de maintenance et acquérir le matériel. Cette édition, c'est vraiment une édition toute spéciale pour nous. Nous avons fait venir du matériel numérique pour satisfaire à la demande des réalisateurs producteurs africains. Nous avons deux salles équipées en DCP, Digital Cinema Package. C'est le format numérique du 35. Il y a le Ciné Burkina et l'Institut français dans la petite salle du Méliès.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque jeudi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, African Music. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
Nouvel attentat suicide dans le nord-est du Nigeria. On fait état d'au moins 18 morts, dont 3 femmes. D'après l'AFP, un kamikaze s'est fait exploser dans une gare routière de la localité de Biou. Et un second assaillant a été abattu avant qu'il n'actionne sa charge explosive.
Et c'est dans ce contexte de violence que le président nigérian Goodluck Jonathan s'est rendu aujourd'hui à Baga. Cette ville de pêcheurs sur les rives du lac Tchad a été attaquée le 3 janvier par le groupe islamiste Boko Haram.
Le principal candidat de l'opposition à la présidentielle du Nigeria, Muhammadu Buhari, a insisté sur les victoires des forces nigérianes à l'étranger et exprimé sa confiance en l'armée dans le cadre de la lutte contre Boko Haram.
L'armée congolaise affirme avoir reconquis un groupe de villages OFDLR dans le sud Kivu. Selon un officier joint par l'AFP, Moulengue et les villages environnants ont été vidés des rebelles Hutu rwandais.
Al-Shabaab a revendiqué aujourd'hui une attaque au mortier sur le palais présidentiel somalien à Mogadiscio.
Les États-Unis ont mis un terme ce jeudi à leur opération militaire pour combattre l'épidémie d'Ebola au Libéria.
1 degré Celsius ici à Washington, Morgan.
À la mise en onde ce soir, Michel Joseph, Morgane Guiriec et Chérubin Dorcil à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.